Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 9, esclavage sans soumission, émancipation sans liberté. Huitième partie. Les intérêts politiques et économiques du Nord exigeaient des alliés puissants et une certaine stabilité en cette période de crise nationale. Le pays subissait en effet une dépression économique depuis 1873. Et, en 1877, les fermiers et les travailleurs commençaient à se soulever. Comme le rappelle C. Van Woodward dans son histoire du compromis de 1877, Reunion and Reaction, le pays traversait la pire année de dépression qu'il ait connue dernièrement. À l'Est, travailleurs et chômeurs couvaient une amertume et une violence rentrée. Plus à l'Ouest, le radicalisme agraire prenait son essor. Des menaces pesaient à l'Ouest comme à l'Est, sur tout l'édifice élaboré autour des mesures protectionnistes, des banques nationales, des subventions et des ristournes économiques accordées aux compagnies ferroviaires, édifice sur lequel le nouvel ordre économique était fondé. Il s'agissait donc de réconcilier au plus vite élite du Nord et élite du Sud. Woodward s'interroge. Le Sud pouvait-il s'entendre avec les conservateurs du Nord et, de menace qu'il représentait pour le nouvel ordre capitaliste, en devenir un des piliers? Avec l'abolition de l'esclavage, des fortunes s'élevant à des millions de dollars s'étaient évaporées et la richesse du Sud avait été balayée. Les sudistes se tournaient à présent vers le gouvernement fédéral afin d'obtenir de l'aide en crédit, en subventions et en infrastructures contre les inondations. 83 millions de dollars avaient été versés à titre de subventions à la Union Pacific et à la Central Pacific pour la construction d'une ligne de chemin de fer transcontinental au nord. Aucune subvention de ce type n'avait été accordée au sud. Or, l'une des choses que désirait le plus le sud était précisément qu'une aide financière fédérale du même type soit accordée à la Texas and Pacific Railroad. Woodward estime que, à coup de crédits budgétaires, subventions, concessions et mises de fonds équivalents à ceux dont le Congrès avait largement fait bénéficier le Nord, le Sud aurait pu recouvrer sa fortune, ou du moins celle de ses élites les plus privilégiées. Cette quête de fonds publics recevait le soutien des fermiers blancs pauvres intégrés dans la nouvelle alliance contre les Noirs. Ils désiraient en effet, eux aussi, des chemins de fer, des ports plus sûrs, des infrastructures contre les inondations et, bien entendu, des terres. Ils ignoraient cependant à quel point tout cela servirait moins à les aider qu'à les exploiter. D'ailleurs, la première décision de la nouvelle alliance capitaliste Nord-Sud fut de rejeter l'acte foncier du Sud, qui destinait toutes les terres fédérales, un tiers de l'ensemble constitué par l'Alabama, l'Arkansas, la Floride, le Mississippi et la Louisiane, aux fermiers qui les travailleraient. Ce rejet permit ainsi aux spéculateurs et aux exploitants forestiers de s'en procurer, sur le marché, la plus grande part. C'était l'âge du charbon et de l'énergie.
Oops, I did it again.
Le nord de l'Alabama possédait les deux. Les banquiers de Philadelphie et de New York, et même ceux de Londres et de Paris, le savaient depuis près de deux décennies. il ne manquait plus que les moyens de transport. Aussi, les banquiers du Nord commencèrent à faire leur apparition au milieu des années 1870 dans les directoires des chemins de fer du Sud. J.P. Morgan y siège en 1875 en tant que directeur de plusieurs lignes ferroviaires d'Alabama et de Géorgie. Cost to lose all my senses. That is just so typically me. Le Nord, il faut le rappeler, n'avait pas eu besoin d'entreprendre une révolution de son mode de pensée pour accepter la subordination des Noirs. Lorsque la guerre de sécession prit fin, 19 des 24 États du Nord n'accordaient toujours pas le droit de vote aux Noirs. En 1900, tous les États du Sud, par de nouvelles constitutions et de nouveaux statuts, avaient inscrit dans la loi la suppression du droit de vote et la ségrégation pour les Noirs. Un éditorial du New York Times affirmait que « les hommes du Nord ne dénoncent plus la suppression du droit de vote pour les Noirs. La nécessité de cette suppression, au motif suprême de l'autopréservation, semble désormais candidement reconnue. » Bien que cela ne soit pas légalement stipulé dans le Nord, la ségrégation et les préjugés racistes existaient dans les faits. Dans cette atmosphère générale, il est peu surprenant que les leaders noirs les mieux acceptés de la société blanche, tels l'éducateur Booker T. Washington, qui fut une fois l'invité de la Maison Blanche sous Theodore Roosevelt, aient préconisé la passivité politique. Invité à Atlanta par les organisateurs blancs de la Cotton States and International Exposition de 1895, Booker T. Washington conseilla aux Noirs du Sud d'y rester et de s'y faire fermier, manœuvre, domestique, et peut-être même parvenir à des professions libérales. Il appelait également les employeurs blancs à embaucher des Noirs plutôt que des émigrants aux coutumes et aux parlers étranges. Les Noirs, sans grève et sans guerre du travail, constituent le plus patient, le plus fidèle, le plus obéissant et le plus docile des peuples que le monde ait jamais connus. Les plus sages d'entre nous comprennent bien que l'exaspération concernant la question de l'égalité sociale est une véritable folie, affirmait-il encore. Peut-être Booker T. Washington considérait-il cela comme une stratégie absolument nécessaire en ces temps où des Noirs étaient pendus ou brûlés vifs partout dans les États du Sud. Ce fut une des périodes les plus dures que le peuple noir ait connu aux États-Unis. Le salaire moyen des ouvriers agricoles noirs dans le Sud était selon fortune de 50 cents par jour. L'ouvrier était le plus souvent payé en tickets et non pas en argent, tickets qu'il ne pouvait utiliser que dans un magasin contrôlé par le planteur en un véritable système de racket organisé. Pour pouvoir cultiver, le fermier noir devait promettre sa récolte au magasin. Lorsque la fin de l'année arrivait, il était toujours endetté. Sa récolte étant, de ce fait, systématiquement due à quelqu'un, planteur ou marchand, il se retrouvait enchaîné à ses terres par la dette qu'il avait souscrite. Ainsi, les Noirs étaient-ils escroqués et quasi prisonniers de leur dette. Même dans les pires moments, les Noirs du Sud persistaient à se regrouper pour organiser leur défense. Herbert Aptheker a réédité 13 documents des années 1880, réunions, pétitions et appels, issus des communautés noires de Baltimore, de Louisiane, des deux Carolines, de Virginie, de Géorgie, de Floride, du Texas et du Kansas, révélateurs du peu de confiance des Noirs et de leur réticence à l'égard des Blancs du Sud, où avait lieu une centaine de lynchages par an. Oh yeah. Malgré le caractère apparemment désespéré de la situation, il se trouvait des leaders noirs pour penser que Booker T. Washington était dans l'erreur lorsqu'il prônait la prudence et la modération. John Hope, un jeune noir de Géorgie qui avait assisté à l'un de ses discours, déclarait aux étudiants d'un collège noir de Nashville dans le Tennessee « Si nous ne luttons pas pour l'égalité, pourquoi vivons-nous au nom du ciel ? Je considère comme une preuve de lâcheté et de malhonnêteté pour tous les hommes de couleur de dire aux blancs comme aux noirs qu'il ne faut pas lutter pour l'égalité. Oui, mes amis, je veux l'égalité et rien de moins. Maintenant, retenez votre souffle car je vais employer l'adjectif. Je suis en train de vous dire que nous exigeons l'égalité sociale. Je ne suis pas une bête sauvage et je ne suis pas une chose dégoûtante. Debout, mes frères, saisissons-nous de cette terre. Soyez mécontents, soyez insatisfaits. Soyez aussi agités que la mer déchaînée. Laissez votre mécontentement exploser comme une lame de fond contre les murs des préjugés et qu'ils le détruisent jusqu'aux fondations. » W.E.B. Dubois considérait ce nouveau capitalisme comme partie prenante d'une dynamique d'exploitation et de corruption qui s'instaurait dans tous les pays civilisés du monde. L'Organisation nationale du travail des pays avancés, à la fois calmée et trompée par un droit de vote dont l'efficacité était sévèrement mise en cause par la dictature du grand capital, était minée par les hauts salaires et les postes politiques réunis pour exploiter la main-d'œuvre des régions moins avancées, qu'elles soient blanches, jaunes, brunes ou noires. En fin de compte, Dubois avait-il raison de prétendre que, d'une certaine manière, pendant cette croissance du capitalisme américain avant et après la guerre de sécession, blancs et noirs vivaient tous en esclavage? Un affranchi des Sea Islands dicta une lettre qu'il envoya à un de ses anciens professeurs installés à Philadelphie. Mon cher monsieur Young, dites, mon monsieur, à Lincoln, qu'on veut de la terre. De cette terre qui est riche de notre sueur, de notre front et du sang de notre dos. On pourrait acheter ce qu'on veut, mais ils font les lots trop gros et les autres ils passent devant. C'est M. Lincoln lui-même qui l'a dit, qu'on dise ce qu'on veut et qu'on les prenne et qu'on s'installe et qu'il s'arrangerait pour qu'on les ait, chaque homme, ses 10 ou 20 acres. On était content aussi. Alors on s'est inscrit, mais au moment de s'installer, ces délégués, ils vendent toute la meilleure terre à leurs copains blancs. Qu'est-ce qu'il fait, Lincoln ? Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.